Vous écoutez le Libre Journal de La Relève, dirigé par Nicolas Stocker, émission préenregistrée le 16 février 2021, diffusée sur Radio Courtoisie mercredi 14 avril de 19h30 à 21h et réalisée par Benoît et Franck. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Eh bien, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour et bienvenue dans ce Libre Journal de La Relève. Je remercie à la technique Benoît. Mon invité du jour, Gérard Le Tailleur, l'auteur de l'histoire insolite des cafés parisiens chez Balzac, si le Mont-Saint-Michel m'était compté, Saint-Germain, le maître du temps, les arcanes insolites de l'histoire, les secrets du chancelier, Noël de la Sainte-Russie, mais aussi Pâques de la Sainte-Russie, les portes du passé, les chevaliers de l'invisible, la légende du roi du monde. Allez, je reprends mon souffle. Bonjour Gérard Le Tailleur.
Bonjour Nicolas.
Alors Gérard, au fil des émissions que nous réalisons ensemble, pour n'évoquer qu'un des nombreux thèmes abordés de l'histoire insolite des cafés parisiens et Montmartre, eh bien on ne s'est jamais arrêté toute une émission durant sur ce qui pourrait être un lieu emblématique, à la fois café, cabaret, brasserie de la Butte. Alors nous allons aujourd'hui nous arrêter justement sur un établissement qui résume bien l'esprit brasserie et cabaret de Montmartre, la Bonne Franquette, aujourd'hui propriété de Patrick et Luc Frageboux. Nous le recevrons Luc en cours d'émission. Chanté par le troubadour montmartrois, Alain Turban, ministre du Music Hall de la République de Montmartre, qui en a fait son siège social à l'angle de la rue des Saules et de la rue Rustique. Alors, qu'est-ce que Alain Turban fredonne à la Bonne Franquette à Paris si tous les amis se retrouvent? C'est pour aimer manger aussi, boire et chanter toute la nuit, lieu mythique, historique, unique, magique, bachique. Le jus de la traille poursuit pour le bonheur de tous son rôle fédérateur pour y faire bien évidemment le bien dans la joie. Tour à tour dénommé au franc buveur, puis au début des années 20 au billard en bois avant de devenir l'ange, le ranch. Et depuis 1925, la Bonne Franquette, locution adverbiale qui correspond bien à ce lieu dont la clientèle a toujours éprouvé le souhait de se rencontrer franchement, en toute simplicité, sans cérémonie. Alors partons ensemble à la rencontre de cet établissement de légende et débutons cette émission avec ces quatre mots magiques. Il était une fois Gérard Le Tailleur, le franc buveur, temple de Bacchus.
Ben merci de cette introduction bien agréable qui nous met déjà en position pour apprécier particulièrement Montmartre et surtout, bien sûr, la Bonne Franquette. C'est un établissement qui est né en 1860. Alors, c'est une date emblématique parce que 1860, c'est la date où, le village de Montmartre va être intégré à Paris. Donc c'est une date extrêmement importante, d'autant plus que c'est le moment où Haussmann entreprend ses travaux, où bon nombre de personnes quittent Paris, quittent le centre de Paris, notamment les artisans. Ils cherchent asile dans les villages avoisinants, Ménilmontant, Belleville et Montmartre. Et donc une population va gravir la colline et va s'installer à Montmartre. Et ça va créer un véritable bouleversement. Et les artistes aussi, surtout les peintres qui travaillaient à Paris avant dans des ateliers, se sont mis à chercher des lieux dans lesquels ils pourraient un peu mieux exercer et puis surtout d'avoir un loyer moins cher, leur art, donc les peintres et autres. Donc ces gens-là vont partir, vont monter, vont se retrouver à Montmartre. Et ça va faire partie de ces grands courants picturaux en fait, qui vont naître et se développer. Donc 1860, date extrêmement importante. Et c'est l'année où va naître, non pas la Bonne Franquette, mais le franc buveur. Le franc buveur, première raison sociale de cet établissement. Et c'est un certain Olivier, Je crois qu'on le surnommait d'ailleurs pied de cochon parce que les restaurateurs avaient tous un surnom à l'époque. Alors je dis ça parce que c'était sur la devanture à l'époque. Il y a des vieilles photos de la fin du 19e siècle qui donnent quelques indications sur l'établissement. Mais cet Olivier avait quand même a eu des amis quelques années plus tard étonnants comme Auguste Renoir qui est venu faire son portrait et qui est même venu, comme il manquait sûrement de papier ce jour-là, de feuilles d'arche ou autre, mais il a préféré finalement faire une superbe aquarelle sur l'un des murs.
Oui, avec une nature morte aussi. Elles ont disparu l'une et l'autre, malheureusement.
Malheureusement, mais nos amis Frageboux ont fait des travaux récemment. Ils ont rénové l'établissement tout en lui gardant son côté champêtre. Mais je crois que malheureusement, ils n'ont pas trouvé trace de cette aquarelle, qui les aurait peut-être un peu dépanné d'ailleurs, pour continuer les travaux. Donc voilà, ceci donc pour 1860 date réellement du début de la grande aventure qui dure depuis 120 ans.
Franquette, franc buveur.
Et 160 ans.
On retrouve le lien entre franc et franquette, la bonne franquette. On verra ensuite ce que signifie cette expression. Mais alors le franc buveur, ça indique tout de suite tout de même. Le jus de la treille, ça, c'est peut-être. D'ailleurs, on se demande si Montmartre à l'origine n'avait pas un temple qui était justement dédié à Bacchus. Qu'est-ce qu'on buvait à l'époque, Gérard Le Tailleur, au franc buveur?
Ben on buvait notamment, comment dirais-je, le guinguet. Alors le guinguet, c'est d'où le nom, les guinguettes. Hein, c'était un vin un peu clairé. On buvait aussi, malheureusement, ce qu'on appelait des fées vertes, donc l'absinthe. Alors là, qui rendait particulièrement malade. D'ailleurs, ça a été interdit. Et on se doute pour quelle raison ça a été pris comme décision, parce que les gens perdaient tout contact avec la réalité et en mouraient même parfois. Ouais. Surtout certains peintres dont nous évoquerons la présence à la Bonne Franquette, comme Van Gogh et surtout Toulouse-Lautrec aussi, qui n'était pas le dernier à apprécier.
Et puis tous les impressionnistes et puis toute la suite. Mais donc vous dites guinguet, on retrouve aussi ginglet.
Oui, bien sûr.
Jinglant, rejinglant. Oui. et alors, je crois que c'est le verbe jingler, hein, qui existe. Et alors, ça veut dire sauter, folâtrer, gigoter. On est presque dans des transes bacchanales.
Hein. Oui, puis il ne faut pas oublier que Montmartre, c'était la campagne aussi à l'époque. Hein. Oui. Il y avait de la verdure partout. Vous savez, il y a une anecdote quand Jean Renoir raconte qu'il accompagnait son père qui était en train de faire son bal au Moulin de la Galette. Il s'arrêtait, il portait le châssis tous les deux. Le châssis était assez grand, donc assez lourd. Et il s'arrêtait. Et que faisait Jean? Dans ses mémoires, il nous raconte qu'il ramassait des escargots de temps en temps. Donc c'était vraiment la campagne à Paris. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait énormément de vignobles. Il y avait beaucoup de vignes, de cèpes de vignes un petit peu partout. Maintenant, il en reste encore un peu, la fameuse vigne qui est juste d'ailleurs pratiquement à coller à la Bonne Franquette, on va dire entre la Bonne Franquette et puis le Lapin Agile. Mais ce sont les derniers vignobles, comment dirais-je, que l'on trouve à Montmartre, ce qui est dommage. Il ne faut pas oublier non plus que ce sont les Romains d'ailleurs les premiers qui ont d'ailleurs partout où ils passaient, ils plantaient des vignes, et notamment à Montmartre. Et ce sont eux qui ont fait découvrir le vin à la population française et parisienne.
Je crois qu'on a changé les cépages aujourd'hui. Je pense que dans la République de Montmartre, son vin, il doit y avoir, ça doit être du Merlot, du Chardonnay, des choses comme ça.
Il y a un doux mélange quand même, mais fort sympathique d'ailleurs. Et puis il y a une œnologue très très spécialisée d'ailleurs, hein, Luc va nous en parler tout à l'heure, qui œuvre dans l'ombre et qui fait quand même un vin qui est de qualité maintenant. Oui, on renoue avec la qualité. Oui.
Alors le ginglet, on disait, d'une saveur à faire danser les chèvres, et si désaltérant qu'on le buvait comme du petit lait. Bon. Et je crois que c'est toujours le cas, on va en parler avec Luc en effet, à la Bonne Franquette, avec plus de 200 références de vin. Je vous avais arrêté un petit peu sur la description de ce fameux Olivier au franc buveur. Je crois que c'était quand même un personnage Ou en couleur.
Ou en couleur, très chaleureux, puisque tous les gens venaient vers lui. J'ai repris dans les mémoires du temps, j'ai trouvé des citations, des passages extrêmement agréables. C'était un homme très ouvert et les gens adoraient le rencontrer. Surtout qu'il fallait faire un effort en plus pour venir le voir, parce qu'il était en haut de la rue Norvins, de la rue des Saules. Même le brave Toulouse-Lautrec, eu égard à ses difficultés pour marcher, faisait un effort impressionnant pour rejoindre son ami Vincent Van Gogh et de se retrouver dans l'ambiance d'Olivier. Parce qu'Olivier a tenu ça quand même, d'après les sources que j'ai trouvées, au moins 25 ans. Donc il est resté quand même très très longtemps à Montmartre. Puis après, bon, il a cédé son fonds à d'autres. Mais ça a été ce fut le premier à constituer réellement cette fantastique ambiance que l'on trouve encore aujourd'hui. Et le lieu, l'emplacement d'ailleurs, était s'y prête beaucoup. Et puis le côté chansonnier aussi, qui est à 40-50 mètres en contrebas au Lapin Agile, se marie avec l'ambiance qu'on retrouve aujourd'hui, puisque, comme vous l'avez nous l'a dit Luc et notre ami Alain Turban là, qui est à côté de moi, nous signale que finalement il y a toujours ce côté chansonnier, ce côté un peu chat noir, mirliton là, qui se développe à la bonne franquette. Les chansonniers sont toujours présents grâce à cette...
Mais ils étaient présents, Gérard Le Tailleur, dès l'origine. Hein, je lis ce poète au surnom d'Ermite du Moulin, et son refrain c'est « Ce gai cabaret de la butte où nul buveur ne se rebute, à s'imbiber de vin clairet. Son petit vin, plein de saveur, affine aux plus folles culbutes. Son patron est un gai viveur, à rouge trogne et large panse. Il siffle un verre, deux seuls traits, un verre ou deux, suivi d'un autre. » Je rappelle à cette occasion, chers auditeurs de Radio Courtoisie, la nécessité de boire avec modération. C'est une obligation que nous fait le CSA, bien évidemment, de le rappeler. Vous étiez en effet, maintenant qu'on a un petit peu planté le décor du franc buveur, c'est intéressant de se pencher, et vous allez pouvoir nous en dire un peu plus, Gérard Le Tailleur, de tous ces artistes qui ont fréquenté, et plus que fréquenté même, ce lieu et ces lieux autour de Montmartre et sur la butte.
Voilà, on a évoqué donc ce fantastique mouvement, le mouvement des impressionnistes, représenté notamment par Monet, par tous ces artistes dont on a parlé, même Van Gogh qui est venu après, Auguste Renoir, ils étaient Cézanne bien entendu, bon et combien d'autres, même Émile Zola, bon lui venait bien sûr en tant que journaliste à l'époque, et il suivait ses amis journalistes écrivains, et puis bon nombre de figures. Même Degas qui était là, lui était plutôt spécialisé dans des scènes des ballerines et autres. Enfin, c'était bon. C'était un univers où il n'arrêtait pas d'ailleurs de se disputer gentiment, oui. Mais il partageait cet amour pour la peinture. Et puis, il venait aussi, comment dirais-je, des Batignolles. Hein. Il y avait aussi le Guerroir rue des Batignolles où ils se réunissaient. Et puis, quand ils avaient fini de passer quelques heures là, ben ils allaient à Montmartre et puis ils se réunissaient donc chez Olivier et puis voilà, puis avec le temps donc tout ça s'est développé. Et c'est simplement au début du XXe siècle que ces peintres décideront de quitter la butte, Picasso en tête d'ailleurs, pour aller s'installer à Montparnasse dans les grandes brasseries que l'on connaît.
D'accord. Si vous voulez en dire un petit peu plus sur ces peintres, c'est le moment. Sinon, on va continuer et on va voir comment évolue.
Voilà, non, bah, pas oui. Buveur. Enfin, j'ai rappelé ce fantastique tableau de Renoir, le bal au Moulin de la Galette. Ce sont des scènes. Il y a même une anecdote drôle. Bon, on peut le rappeler, c'est que Renoir cherchait continuellement des modèles. Alors il y avait, et puis les jeunes femmes le savaient, donc elles venaient à la bonne franquette. Alors il les regardait quand les traits de la jeune personne lui plaisaient. Il dit, mais si vous voulez, je vais faire une esquisse et puis je vais faire votre portrait. Alors, donc, la jeune fille s'asseyait, et puis comme ça, ça lui permettait d'avoir des têtes qui ensuite, donc, étaient disséminées là, dans sa toile. Il les mettait en phase, en condition, donc, pour réaliser son tableau. Et puis, à la fin, donc, il demandait à la jeune fille, il lui disait, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Si tu veux, on fait d'autres séances de pose, puis à ce moment-là, je te ferai un beau cadeau, si tu veux, je peux te faire ton portrait. Alors la jeune fille le regardait. Ou alors, ce que je peux faire, je peux t'offrir un très joli chapeau à la mode. Et 9 fois sur 10, la jeune fille préférait le chapeau à la mode.
Bien à tort.
Bien à tort.
Si ce n'est pour elle, en tout cas pour ses descendants. Ça, c'est évident. Alors, on va quitter Olivier. Ce personnage était quand même formidable. Quelques lignes encore d'un livre à paraître sur la bonne franquette, mon cher Gérard. Olivier rayonne, la mine éveillée et joviale. Il tourbillonne, vient, revient, repart, griffonne les additions à même les nappes, fait savourer aux amis son eau de vie de prune maison, tout en faisant jaillir de sa mémoire, en gerbes crépitantes, les souvenirs des grands moments de son établissement. On ne parle plus, on l'écoute, on l'admire. On admire cet air de fête qu'il porte sur son visage. On envie sa joie de vivre. On souhaite inconsciemment arrêter les aiguilles au cadran de la vieille pendule qui trône près du comptoir. Le lieu devient intemporel. De très belles lignes, Gérard Le Tailleur, qu'on aimerait et qu'on espère retrouver rapidement en ces temps de confinement
oui,
et de gestion de crise sanitaire.
C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. On voudrait que nos chers cafés réouvrent et nos restaurants, bien sûr, le plus rapidement possible.
Alors, qu'est-ce que devient le franc buveur il change de nom.
Le franc buveur va devenir les billards en bois. Il faut dire qu'à cette époque-là, c'était une mode dans d'autres établissements d'ailleurs, de trouver des billards en bois parce que les gens venaient, se détendaient. Il y avait beaucoup de jeux dans les cafés et puis dans les restaurants. Donc, on installait des billards en bois beaucoup plus tard, dans les années 50-60. Ça sera plutôt des flippers et autre chose, ou des billards simplement.
Les décrire, ces billards en bois, parce qu'ils sont spécifiques.
C'était des billards qui arrivaient à faire jusqu'à 5 mètres de long. Ils avaient des queues en fait qui envoyaient des palets. Il fallait pas que ça tombe dans la gouttière qui était dans le bout. Sur certains palets, on empilait des pièces de monnaie. Et la chose qui est drôle, c'est qu'il fallait éviter de gagner parce que celui qui gagnait devait payer la tournée.
C'est ça.
Une tournée générale. Et quelques années après, au tout début du XXe siècle, celui qui va devenir un des grands champions, un des grands, professionnels de la chose, s'appelait Francisque Poulbeau. D'ailleurs, il va créer deux journaux, c'est pour son équipe et pour l'équipe adverse, c'est d'ailleurs lui qui va financer les deux. Donc c'était vraiment à la bonne franquette, comme on peut le dire, la manière dont tout ça a été joué. Et il y avait, ça détendait l'atmosphère, donc il y avait toujours beaucoup de gaieté autour de ce jeu.
Dans le jeu,
il
aimait énormément ce jeu. À un moment donné, Gérard Le Tailleur pouvait nous expliquer les joueurs et les spectateurs criaient « à la chaudière !»
À la chaudière, voilà. C'est quand le palais tombait dans la rigole qui était au bout donc, du billard.
Donc c'est l'équipe perdante, ça.
Ah, c'était l'équipe perdante, voilà. C'était l'équipe perdante. Donc le reste, celui qui restait, bien sûr, c'était le gagnant. Et le gagnant qui n'avait pas trop envie de gagner non plus.
Alors les deux journaux que vous évoquez, l'un s'appelait Le Bouchon et l'autre La Chaudière. Justement.
L'autre La Chaudière, voilà. Et c'est Poulbeau qui écrivait d'ailleurs tous les articles dans les deux journaux.
La vie continue et puis
nouvelle mutation, ça va devenir très peu de temps l'ange. Oui. Mais comme je dis un peu de manière drôle dans mon ouvrage, là, l'ange va vite rejoindre sa constellation, ça ne va pas durer bien bien longtemps. Et surtout, ça va être tout de suite après le ranch. Et là, ça a beaucoup plus d'importance. Parce qu'il y a une
chose. Quel nom curieux, le ranch.
Oui, quand on pense à cela aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier qu'au tout début du XXe siècle, en 1905, dans le bas de la rue Caulaincourt, il y avait ce qu'on appelait l'hippodrome de Montmartre, d'ailleurs. Et cet hippodrome qui est devenu, quelques années après, d'ailleurs, le Gaumont Palace, la plus grande salle de cinéma, j'ai l'air du monde, puisque je crois qu'elle pouvait contenir 6000 spectateurs. Donc c'était énorme. Et en 1905, William Cody, plus connu sous le nom de Buffalo Bill, est venu faire son spectacle, son Wild West Show à Montmartre. Et là, il l'a fait. Alors, non pas par hasard, parce qu'il y a un personnage étonnant en ce début du XXe siècle qui s'appelait Joe Haman, que l'on a complètement oublié. Et Joe Haman avait été donc aux États-Unis et il avait rencontré Buffalo Bill sur place. Et il lui avait expliqué qu'à Montmartre, il y avait un endroit qui se prêtait au niveau des dimensions et autres à son spectacle. Et donc Buffalo Bill est venu et il a eu un succès colossal. Et ensuite, son spectacle, il l'a rodé à Montmartre, on peut dire, puis il l'a un peu exporté partout.
Donc c'est sur la conquête de l'Ouest. Hein.
Alors sur la conquête de l'Ouest, sur la bataille, je crois me souvenir, de Little Bighorn, les attaques de diligence. Et ce qui va donner une idée étonnante à Joe Haman, c'est que Joe Haman, il faisait un petit peu tout. Il connaissait déjà Gaumont.
Il était décorateur, acteur, scénariste, voilà, producteur.
Absolument. Et puis, alors, cet homme décide, en voyant ce spectacle de Buffalo Bill, de créer les premiers westerns. Ça, on l'a oublié.
Français.
Et ça s'appelait les westerns camembert. Et ça durait 5 minutes, 10 minutes.
Je connaissais les spaghettis.
C'était des films muets. Et quand ces films ont été visionnés par les Américains à Hollywood, là, quand ils commençaient l'industrie cinématographique là-bas, ils se sont dit, mais il va falloir qu'on exploite ça. Et ça a été ça a commencé, tous les films, on va dire, de série B après, et puis ça s'est un peu peaufiné quelques décennies plus tard. Mais au départ, c'est ça. Au départ, c'est un Français, donc Joe Haman, qui a eu l'idée de créer les premiers westerns.
D'accord.
D'où l'engouement à Montmartre de l'Amérique et tout ce qui touchait l'Amérique. Et il y a aussi quelque chose donc, qui se produit, qui va être un signe avant-coureur de cette passion que les Parisiens et les Montmartrois vont avoir pour les Américains et pour le cinéma américain. C'est Crue d'Orchamps, la maison où Dalida a vécu longtemps jusqu'à sa mort, a été à une certaine époque, au début du XXe siècle, le lieu non seulement de rendez-vous, mais les bureaux de la métro Goldwyn-Mayer étaient là. Donc on voyait toutes les grandes vedettes du cinéma américain à Montmartre et à la Bonne Franquette, d'ailleurs, chez Adrienne à partir de 1925, parce que ça c'est elle qui a tenu, on en parlera d'elle tout à l'heure si vous voulez. Eh bien, il s'avère que même dans les années 50, hein, vers 1950, on voyait Charlton Heston qui buvait un coup avec Yul Brynner, et d'autres consommaient. Il y avait Faye Dunaway, il y avait tout, et puis Steve McQueen. Toutes ces grandes personnalités du monde du cinéma étaient autour du zinc où s'asseyait une table de la Bonne Franquette. Il y avait une ambiance extraordinaire. Et ça, c'est parce que c'était donc le siège de la MGM à l'époque, rue d'Orchamps. Et ce qui explique l'engouement que les Américains ont eu pour Montmartre et les Français pour le cinéma américain. Mais ça n'a pas duré très 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 longtemps non plus. Ça a continué un peu. Puis, vous savez, toutes les passions, malheureusement, passent. Et puis, il y a un certain moment, on change de raison sociale. Et donc, on change de mode, plus exactement. Donc, le ranch est mort. Bon, et puis...
On dit le ranch est mort. Vive la Bonne Franquette.
Vive la Bonne Franquette.
Ça y est. Alors, mais d'où vient d'abord... cette expression,
alors,
la Bonne Franquette.
Cette locution adverbiale a pris naissance en France au XVIIIe siècle. Alors ça vient d'abord de Franc, bien entendu. Franc qui a donné Franquette, et puis Bonne Franquette, c'est-à-dire c'était de se voir, de se rencontrer d'une manière détendue, agréable, sympathique, sans mettre les certains grands plats dans les petits ou inversement. Donc on se recevait en toute simplicité. Et cette locution donc a tellement plu à certains artistes, d'ailleurs, qu'un compositeur a créé au XVIIIe siècle une opérette. Hein. Bon, ça ne s'appelait pas encore une opérette à l'époque, mais enfin l'équivalent des opérettes qu'on a connues à la fin du XIXe siècle, qui s'intitulait « À la Bonne Franquette ». Et grâce à cela, bien, ça s'est popularisé. C'est une expression qui s'est développée et qui correspond bien, d'ailleurs, à l'idée que l'on se fait d'un lieu où on va se détendre, où on va être reçu chaleureusement et où on va se...
Oui, et puis cette notion de franchise hein, qui est en contradiction avec l'apparat des comportements huppés d'une certaine aristocratie. C'est-à-dire qu'il y a toujours la gouaille de Montmartre, principe de franchise où on dit à la Bonne Franquette, ça veut dire aussi on ne va pas faire de chichi, c'est ça?
Non, mais on ne peut pas imaginer, par exemple, les peintres dont on a mentionné les noms se retrouver dans un lieu décoré de manière très ostentatoire. conservatoire ou autre, ils n'auraient pas su quoi faire, ils ne seraient pas sentis à l'aise. Et l'ambiance rupestre, que, malgré les travaux, grâce aux travaux même actuels, je dis malgré, ils ont fait des travaux merveilleux, Luc vous en parlera tout à l'heure, eh bien, l'endroit a gardé tout à fait sa convivialité, il a gardé son aspect champêtre du temps du franc-buveur un peu. Oui,
avant d'arriver dans les années 70 avec en effet Patrick et Luc Frachebout et le grand-père aussi dont on pourra dire quelques mots, Olivier tenait d'une main de maître le franc-buveur, je crois qu'officiait à l'origine de la bonne franquette une certaine Madame Adrienne. Est-ce que vous pourriez, Gérard Le Tailleur, nous parler de cette Madame Adrienne?
Madame Adrienne, c'est une jeune femme qui a pris en main donc la bonne franquette en 1925. Et elle avait beaucoup d'amis, même dans le milieu politique ou autre. Notamment, elle s'entendait très bien avec l'ancien maire de Lyon, qui est devenu d'ailleurs président du Conseil, Monsieur Herriot, pour pas le nommer.
Édouard
Herriot, qui venait à la bonne franquette se détendre et qui était très bien reçu et qui animait d'ailleurs des fêtes montmartroises. Notamment, il s'occupait du dîner, on va dire, des personnes du troisième âge. À l'époque, c'était des vieux, mais du troisième âge. Et il se prêtait beaucoup à ce genre de réception. Et il venait avec beaucoup d'amitié partager ces moments conviviaux. Mmh. Et comment dirais-je, celle qui m'en a parlé, c'est une personne de Madame Adrienne, j'entends, qui vit encore, que Luc connaît très bien, que notre ami Alain Turman aussi connaît très bien, puisque c'est la doyenne des peintres de Montmartre, et elle se prénomme Serpolette. Ah, et elle a toute sa tête, elle est extraordinaire, malgré le... elle va avoir 100 ans bientôt, elle doit avoir 98, 99 ans. Et bien, cette artiste, super, parce qu'elle a fait d'ailleurs une affiche, je crois que c'était en 86 ou 87, concernant la fête des vendanges à l'époque, une affiche qui est merveilleuse, qui est d'ailleurs toujours présente, encadrée à la bonne franquette. Et bien, elle a connu Adrienne dans les années 50, quand elle était sur la butte Montmartre, et elle se rappelle de cette femme extrêmement sympathique qui venait encourager les peintres, et de temps en temps qui leur disait: ah, mais si vous avez un petit moment, venez, je vous offre un pot à la maison, venez, vous serez toujours très très bien reçu. Et cette chaleur très communicative qu'avait Adrienne était ressentie par ces artistes qui tiraient souvent le diable par la queue, parce que c'était encore aujourd'hui, mais certes c'est difficile de tenir. Même pour d'autres raisons aujourd'hui, parce qu'ils ont de moins en moins de place d'ailleurs pour peindre.
Alors vous nous expliquiez qu'il y a déjà, dès le franc-buveur, il y avait cette ambiance aussi, après avoir bu quelques verres, à se fâcher, pas méchamment. Et je lis que vous aviez la bonne franquette accueillir une association française du grand reportage, hein, dans l'entre-deux-guerres, oui. Ça s'est à nouveau mal terminé.
Parce que le président n'était autre qu'Henri Béraud. Et Henri Béraud avait des amis, il avait aussi pas mal d'ennemis, parce qu'il était inclassable, Henri Béraud. C'était une personnalité, j'allais dire plutôt à gauche, en fait, qui avait beaucoup, beaucoup d'amis du monde politique qui étaient de ce bord, mais qui était resté un anard avant tout. Et puis, à un certain moment, il y a eu une tension. Il a commencé à avoir des écrits un peu indélicats, dirons-nous, sur certaines personnalités politiques de l'époque. Ça s'est mal passé. Donc, une partie des journalistes s'est retournée contre lui. Et puis, il a claqué la porte. Et puis l'association s'est arrêtée quelques temps plus tard.
De toute façon, dans ce genre de lieu, j'ai envie de dire qu'on ne prend pas de gants, puisqu'on est à la bonne franquette.
On
quand on parle
franquette.
Des hommes politiques, je vois, vous disiez que Herriot, Gégène, quand il lui donnait la parole, disait: on voudrait que tu jactes bien.
Ouais, c'est... Alors, il faut dire que Gégène, c'était Eugène Paul, hein, bien sûr, c'était Eugène Paul, donc c'était ce peintre étonnant qui était unijambiste. Il avait perdu une jambe durant le premier conflit entre 1914 et 1918. Il était retourné à Montmartre et puis s'est installé dans son atelier, qui existe toujours d'ailleurs, hein, qui est rue Norvins. C'était un personnage tonitruant. Il avait été c'est comme... Mais il a eu le malheur d'éprouver beaucoup d'amitié pour Louis-Ferdinand Céline à un certain moment. Donc, c'était quand même pas véritablement bien vu en 1945-46. On lui a reproché. Mais lui, c'était, il aimait certaines personnes. Puis les idées des uns et des autres ne l'intéressaient pas beaucoup. Donc, Jean Paul avait même créé, pour dire « je suis là, j'existe toujours », il avait créé la Chignole. Il faut savoir que la Chignole, bah, c'était un orphéon, ni plus ni moins, avec quelques amis peintres. Ils jouaient des instruments de musique. En fait, ils faisaient un raffut pas possible. Et souvent, d'ailleurs, ils s'installaient devant la Bonne Franquette, où ils jouaient, ils tenaient des mini-concerts. Et quand Adrienne en avait un peu assez, elle les conviait à rentrer pour boire quelque chose, pour éviter que le spectacle ne durât trop longtemps. Quoi.
Alors, Adrienne, à partir de 1955, passe la main à Maurice Hiss. Et avec Maurice Hiss, la Bonne Franquette continue à très bien se tenir. Et c'est là qu'on retrouve aussi tous ces artistes, hein, Édith Piaf, Jacques Brel, qui hantent les lieux.
Ben, c'est l'époque dont on est. C'est bien sûr, c'est l'après-guerre, hein, c'est les années 50. C'est-à-dire que ce sont les années où, dans les cabarets de Montmartre, vont naître les plus grands auteurs, compositeurs, interprètes qu'on ait jamais eu. Enfin, on en a encore quelques-uns, mais pour moi, les plus grands furent ceux que j'ai eu le bonheur d'entendre ou quelquefois de connaître, comme Georges Brassens. Mais parce que Brassens a démarré, là, je vous entends depuis que vous m'avez posé la question, Patachou, le cabaret de Patachou, parce que Patachou, elle avait l'art et la manière de dénicher les artistes les plus exceptionnels, de Guy Béard à Brassens. Brel est venu chanter aussi, Léo Ferré a chanté aussi. Et puis même, elle avait tellement de charisme qu'elle avait des amis américains qui chantaient pas trop mal, notamment comme Dean Martin ou Frank Sinatra, qui chantaient le soir chez elle par plaisir. Elle aurait été incapable de leur donner un cachet correspondant à leur notoriété, mais ils venaient et tout. Et c'était la fête permanente, en fait. Et donc, elle avait cet amour communicatif, j'allais dire, de l'art, elle-même de la chanson. Elle-même chantait très bien. Elle a enregistré des chansons, j'entends par exemple Rue Le Pic. Elle a enregistré des chansons étonnantes et elle correspondait très bien à cette gouaille montmartroise des années 50.
Très bien, très bien. Alors, on va arriver petit à petit à l'acquisition par Christian Frageboux et ses amis.
Voilà.
Alors
Christian donc, qui est le grand-père de notre ami Luc, qui est là. Christian est arrivé, on parlait de la Savoie aussi tout à l'heure, et il est arrivé de Samoëns, un petit village dans la vallée du Haut-Giffre, comme beaucoup de Savoyards qui sont venus à Paris au fil du temps, à commencer par ce que nous appelions jadis les petits Savoyards, qui étaient, eu égard à leur taille, habilités à monter plus facilement dans les cheminées. Donc, ça a commencé comme ça au XVIIIe siècle. Et puis, de différentes provinces. Bon, il n'y a pas que les Savoyards qui sont venus, comment dirais-je, à Paris, bien sûr, faire carrière dans le monde de la restauration. Je pense aussi, bien sûr, aux Auvergnats et surtout aux Aveyronnais. Mais les Savoyards ont créé des établissements formidables aussi, comme chez Mollard, d'ailleurs, en face la gare
Saint-Lazare. Hein.
C'était des Savoyards aussi. Et donc, il arrive, Christian Frageboux, il est plein de bonne volonté, plein de courage, et il va commencer sa carrière au bal du Moulin Rouge, où il va remplacer au pied levé quelqu'un qui ne se présente pas, et eu égard à son charisme aussi, il va faire, l'unanimité autour de sa personnalité, tout le monde va l'apprécier. Et il va rester longtemps, d'ailleurs, non seulement au bal du Moulin Rouge, mais au Moulin Rouge. Et il va s'occuper d'autres, également, je crois, des Folies Bergères et autres, quand on lui a demandé. Et puis ensuite, donc, il s'est lancé lui-même dans le monde de la restauration, en reprenant avec quelques amis la Bonne Franquette, qui était un peu à la dérive à l'époque. Et il s'est lancé. Et il avait d'ailleurs de gros soucis parce qu'il y avait beaucoup de dettes, je crois, à cette époque-là. Oui. Ils ont repris l'affaire, ils se sont, et puis peu à peu, donc il est resté le seul maître à bord, et ça a été extrêmement difficile. Mais il a mené sa barque d'une manière formidable. Il a repris aussi d'autres établissements, dont la Crémaillère, et ça avec le père de Luc, donc avec Patrick. Et puis c'est le début de la grande aventure à partir de 1971.
Eh ben, on va continuer cette grande aventure. cette odyssée qui nous mène du franc buveur jusqu'à la bonne franquette, mais une petite pause musicale, un titre de votre ami justement Alain Turban, Itinéraire d'un enfant de cœur.
Et quant à la rue Paul Albert, je pense à mon père. La rue Ronsin, sans le vouloir, j'arrive à la place des abbesses avant qu'on fesse. La rue Le Pic, qu'est-ce que je trafique? C'est vrai qu'à la rue des Martyrs, souvent on m'inspire. Itinéraire d'un enfant de cœur. Et encore la messe de 8 heures. Itinéraire d'un enfant au cœur qui va se faire sonner les cloches au Sacré-Cœur. Rue Colincourt, le temps qui court. Et quant à l'avenue Junot, je l'ai dans le dos. La rue rustique, elle est pratique. J'arrive à la haut du Mont-Sny, c'est pas fini. Rue Saint-Vincent, ça monte tout le temps. Et quant à la rue des Trois Frères, je récupère. La rue Francœur, c'est du bonheur. Mais quand je vois la rue, la marche, le cœur en vrac. Itinéraire de l'enfant cœur. Rater encore la messe de 8 heures. Itinéraire d'un enfant cœur qui va se faire sonner les cloches au Sacré-Cœur. Eh oui.
Itinéraire d'un enfant de cœur, Radio Courtoisie, ce libre journal de la relève, avec Gérard Le Tailleur, Simon Martre et la bonne franquette nous étaient comptés. C'est le moment, mon cher Gérard, d'accueillir notre premier ou votre premier invité. On vient de dire quelques mots de Christian Frageboue, le grand-père, et puis il y a donc le père, Patrick Frageboue, député de la République de Montmartre. Et puis nous recevons dans ce plateau un ministre, attention, ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un ministre dans un livre au journal de la Relève, ministre de la musique, son fils Luc Frageboue. Bonjour Luc.
Bonjour Monsieur Stocker, merci de me recevoir.
Eh ben écoutez, on est enchanté avec Gérard de vous recevoir, qui va faire un petit peu votre présentation. Moi, ce que je voulais juste pour introduire la bonne franquette des temps modernes, actuels, j'ai retrouvé ce que votre père avait le vendredi 13 mars 2020, un journal l'interrogeait pour un article, et il confiait aux journalistes « Ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est servir quelques amis à une table, comme aujourd'hui. Dans ces cas-là, je pourrais même me passer de client. » Malheureusement, il ne pouvait pas encore le savoir à ce moment-là. Le lendemain, le Premier ministre, Édouard Philippe, allait en effet fermer bars, restaurants et autres commerces dits, on se demande pourquoi d'ailleurs, non indispensable. J'imagine que c'est une période qui est difficile pour vous, Luc Frageboue.
Oui, pour nous, comme comme pour tout le monde, hein, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, et puis tous les métiers qui sont liés directement et indirectement. Ça, c'est évident. Mais cette petite blague de papa, oui, ce serait un restaurant qui aurait marché, ce serait un restaurant qui fermerait entre midi et deux pour recevoir les copains. Voilà, ça, c'était une blague qu'on aimait bien dire, mais bon, c'est pas encore le cas.
Il est vrai, Luc, il y a énormément de convivialité, c'est vrai, qui est créée d'ailleurs grâce à l'ambiance familiale depuis trois générations, parce que Luc représente la troisième génération d'ailleurs des Frachebout arrivés à Paris. Christian, le grand-père dont j'ai évoqué le passage au Moulin Rouge et autres il y a quelques instants. Patrick, qui tient toujours d'ailleurs, mais qui peu à peu quand même prend du recul. Et puis maintenant Luc qui est en titre et qui s'occupe de la bonne franquette. Et c'est un plaisir parce que Luc est un homme extraordinaire, d'une grande gentillesse, et puis en même temps un musicien formidable. Il en parle pas beaucoup, mais il a le sens du spectacle aussi. Il est le premier à travailler la régie, on peut dire, un peu dès qu'il y a des numéros, quand même, parce que La Bonne Franquette, c'est aussi un cabaret. D'ailleurs, ça va se redévelopper comme ça dans les mois qui vont suivre, là, j'espère le plus tôt possible, la réouverture. Et Luc est toujours le premier à concevoir les spectacles, à s'occuper, à donner toujours des avis extrêmement intéressants sur la manière de driver un petit peu ce côté spectacle.
Ça, on va en parler aussi avec Alain Turban. Moi, ce qui me fascine dans ces dynasties familiales, plusieurs générations vont finalement reprendre une affaire. C'est quelque chose qui, entre autres, du fait des droits de succession, est de plus en plus compliqué aujourd'hui dans ce type de métier ou les métiers de l'artisanat. À l'origine, j'imagine, Luc, vous n'étiez pas, d'ailleurs votre père, Patrick Frachebout, à ma connaissance, n'était pas destiné du tout. Il avait fait, je crois, un doctorat d'économie. Il a travaillé au Parlement de Strasbourg ou à Bruxelles. C'est un maître sommelier aussi, votre père.
Oui, ça s'est découvert après. La passion du vin était déjà là. Le titre honorifique est arrivé bien après. Oui.
Et d'ailleurs, je crois qu'on vous a décerné en 2020 la coupe du meilleur pot.
Tout à fait. Par l'Académie Rabelais, dont Gérard, le tailleur, en fait partie. Bien sûr, bien sûr.
Elle a été remise à La Bonne Franquette. Je serais tenté de dire, malheureusement, eu égard à la situation, remise à plus tard, mais elle est bien sûr attribuée à La Bonne Franquette. Et on attend la réouverture, d'ailleurs, pour créer une soirée autour de cette remise.
Qui sera un événement.
Ouais. Premier rapport.
Et là, je crois qu'il n'y aura pas de couvre-feu. Hein,
non.
Pour cette soirée-là. Alors, vous avez, vous, Luc, fait une école de gestion. Vous faites de la musique. Mais donc, si j'ai bien compris, vous avez repris... en co-gérance, c'est ça?
Absolument.
En co-direction avec votre père, donc Patrick, à peu près il y a une dizaine d'années, c'est ça La Bonne Franquette.
C'est ça. Tout simplement à la fin de mon parcours scolaire et initiatique. Oui. Je ne voulais pas forcément reprendre directement à la sortie de... je voulais me former un peu, voir comment faisaient les autres, voir comment réfléchissaient les autres, voir comment fonctionnaient les autres. Pour vraiment me former, hein. Et puis le mettre en application ou pas sur les choses que j'avais appris, les choses bonnes, les choses moins bonnes, c'était l'idée un peu. Et oui, depuis une dizaine d'années, ouais, c'est ça, un peu depuis 2010, je suis vraiment... Mais j'y ai toujours travaillé. Moi, j'ai eu la chance, si on peut le dire, de pouvoir travailler très jeune, donc de pendant les vacances.
Dès l'âge de 12 ans, hein,
dès l'âge de 12 ans, à la plonge. Moi, j'ai démarré à la plonge.
Ah bah, voilà.
J'ai démarré à la plonge, après, je suis passé au froid... ce qu'on appelle au froid, enfin en cuisine, après au chaud. Je voulais faire de la salle aussi, parce que j'aime beaucoup le contact, oui. J'aime beaucoup servir, j'aime faire plaisir aux clients. Mais quand on a 12-13 ans en France, c'est pas possible de passer tout de suite en salle. Donc j'ai attendu d'avoir 15-16 ans.
D'accord.
Et donc là, je suis passé en salle. Et puis j'ai continué à faire des allers-retours. Je suis retourné en cuisine en 98, en 99, en 2000, toujours pendant les grandes vacances. Donc je faisais 2 mois de cuisine. Et puis ce qui m'a donné une vraie... idée de ce que c'était le métier d'une manière transversale, si vous voulez, et voir ce que c'est que tous les postes au sein d'un restaurant. Voilà ce qui m'a plu et ça s'est inscrit dans cette logique-là un peu.
Et aujourd'hui, vous avez quand même, j'imagine, on a tous des prédilections pour certains aspects, justement, est-ce que c'est plutôt le service
Très dur de répondre, les deux, parce que j'adore cuisiner. Mais de là à faire une carrière à 100% en cuisine, je me destinais pas vraiment à ça. Donc j'aime bien servir aussi, j'aime bien faire plaisir aux clients, j'aime bien accueillir, j'aime bien goûter, déguster les vins avec les clients. Vraiment, ça c'est la partie plaisir du boulot, vraiment.
Alors c'est une cuisine traditionnelle, comme c'est un lieu traditionnel, j'imagine que la cuisine va avec.
Oui, mais c'est une cuisine vraiment traditionnelle, sans prétention. Si vous voulez, nous, le pari que j'ai envie de dire, c'est si on arrive à vous servir un mets de qualité, avec une personne sympathique et le verre de vin qui va avec, pour moi, le pari est gagné. C'est à peu près ça. Et le personnel... Et un peu à notre image, ils sont tous un peu sympathiques. Voilà. C'est ce qu'on pense en tout cas.
C'est une maison familiale.
Ah oui, complètement. Pour preuve, les salariés, sont là depuis toujours.
Voilà.
Moi, le plus vieil employé est là depuis 43 ans. Et s'il n'était pas content, il pourrait trouver du boulot ailleurs. Et il est resté, il était très content. Et nous, on était toujours très contents de travailler avec lui et avec les autres aussi. Voilà.
Est-ce que c'est un fardeau, un poids particulier de savoir qu'on reprend un lieu, on vient de l'évoquer avec Gérard Le Tailleur, qui est chargé d'histoire et d'une histoire qui aujourd'hui est une légende, fait rêver. Quand on parle, vous vous rendez compte de Van Gogh, de
Alors, il y a
de
ça,
Renoir,
Bien sûr qu'il y a ça, mais la première pression, si j'ai envie de dire, c'est de faire perdurer, de rendre pérenne et de développer. Parce que je ne souhaiterais pas me contenter d'être juste le repreneur, vous savez, le fils de qui reprend. Non, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est d'amener un peu aussi mon grain de sel, mes idées, ma vision. Et puis, toujours développer ça dans un sens positif, quoi, en respectant, bien sûr, les traditions qui se perpétuent depuis toujours avec mon grand-père, avec papa. Donc, maintenir la tradition tout en la développant et la mettant au goût du jour, enfin, si je puis dire, c'est assez délicat. Et y a la pression de l'entourage qui dit, est-ce que tu vas y arriver, est-ce que tu vas pas y arriver, c'est pas facile tous les jours. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du lieu de votre Montmartre? Je crois que c'est un petit peu la bonne franquette, c'est à l'écart de la place du Tertre.
Absolument, nous on est un peu entre deux, si vous voulez. C'est les affaires qui marchent énormément, c'est la place du Tertre. Nous, on est en recul, on n'est pas sur le chemin du Sacré-Cœur, on est un peu avant. Donc, on a tendance à dire que c'est quand les autres travaillent énormément que nous, on prend un peu le reste. Mais bon, on est très content. Moi, je suis très content d'être en recul de cette place du Tertre. On creuse notre sillon, on fait comme bon nous semble. Si ça marche, tant mieux. Mais on ne suit pas les autres, quoi.
C'est peut-être mieux parce qu'on a beaucoup dit sur ces restaurants de la place du Tertre, un peu des attrapes touristes. Ouais. Et on a vu d'ailleurs la sanction quasi immédiate. Et j'espère qu'on ne va pas les voir fleurir demain. Et c'est un des grands risques suite à ces confinements. L'apparition sur la place du Tertre d'un Starbucks Café.
Ah oui, c'est arrivé. Bon, il y en a toujours eu, mais ça depuis toujours. Hein. Depuis les années 50, il y en a toujours eu un ou deux qui faisaient un peu n'importe quoi, si je puis dire. Mais dans l'ensemble, c'est pas général. Faut pas généraliser. Il y en a tout. Bon, il y a eu des abus, c'est sûr, mais la plupart sont plus là. Ils en ont payé les frais. Et puis, d'une manière générale, la butte Montmartre élève le niveau, vraiment, vraiment, vraiment. Et tout le monde s'y met. Que ce soit dans l'accueil des clients, dans la qualité des mets servis, la qualité des vins. Non, vraiment, les rénovations de restaurants. Non, vraiment, tout le monde joue le jeu.
Alors, vous avez beaucoup rénové la Bonne Franquette. Vous pouvez nous en dire quelques mots, peut-être?
Alors, bon, oui, de toute façon, on a toujours rénové notre affaire. On a toujours réinvesti un peu. Même beaucoup dedans, pour maintenir un bateau à flot, faut l'entretenir. Avec ce qui s'est passé, on en a profité pour faire des choses qui nous trottaient dans la tête depuis longtemps, c'est-à-dire depuis quasiment ma naissance, depuis 82, on a retrouvé des plans sur des choses qu'on voulait faire et là qu'on a pu mettre en œuvre. On a fait ça à notre rythme, c'est-à-dire qu'on a appelé notre maçon habituel, des copains entrepreneurs qui sont retrouvés un peu sans boulot. Et puis du coup, de fil en aiguille, on a commencé à refaire un peu de démolition, un peu de rénovation, des peintures, des enduits, et qui maintiennent ce restaurant dans son écrin, dans son jus. Sans que ça se voit, enfin, de le moderniser sans que ça se voit. En gros.
Si. Absolument. Alors, la bonne franquette pour les auditeurs de Radio Courtoisie dans ce libre journal de la relève, je me tourne à nouveau vers vous, Gérard Le Tailleur, c'est, je crois, le siège social de cette fameuse République de Montmartre dont on pourrait peut-être encore un peu parler.
Avec grand plaisir. La République de Montmartre a fait son apparition en 1920-21. Et puis, elle est née, j'allais dire, de l'imagination de quelques amis peintres, notamment, dont Poulbeau, Villette, il y avait Joey Bridge aussi. C'était des personnalités étonnantes, agréables, qui voulaient faire le bien dans la joie, qui est d'ailleurs la devise de la République de Montmartre. Et ils se sont réunis. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien? Il faut dire qu'on est 2-3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une misère noire. Les enfants n'ont pas de soins, notamment, ou ils ne peuvent pas en avoir, parce que ça coûte très cher d'aller voir un médecin. Ça coûte très cher d'aller voir un chirurgien dentiste. Alors les pauvres gosses, ils sont là, ils sont le long des trottoirs, ils sont malingres, ils ne mangent pas à leur faim. Et la République de Montmartre donc, a eu immédiatement dans l'idée de porter assistance d'une manière ou d'une autre à ces jeunes, à ces enfants. Et la première grande réalisation de la République de Montmartre va consister à créer un dispensaire Place du Tertre. D'accord. Et ce dispensaire va s'avérer être trop petit très rapidement. C'est pour ça que la République cherche à ce moment-là un autre lieu. Et pour créer, pour développer un autre bâtiment dans cet esprit-là. Et Francisque Poulbeau, qui prend la direction de ses activités, va voir Delcroix, qui tient la Pomponnette, 42 rue Lepic. Et il voit Delcroix, et Delcroix lui dit: qu'est-ce que je peux faire, Francisque, pour toi? Parce que c'était son antre. Hein. Sur les murs, il y avait des dessins, des peintures de Poulbeau partout. Il lui dit: écoute, voilà, on cherche un lieu pour créer un nouveau dispensaire. Et à ce moment-là, Delcroix lui dit: viens avec moi. Et alors, ils vont, comment dirais-je, au fond de la salle, et ils arrivent dans le jardin, qui était quand même assez, assez grand. Au milieu du jardin, il y a une espèce de baraque en bois. Il y a des bruits étranges, d'ailleurs, dans cette baraque. Et puis, Delcroix dit à Poulbeau: si tu veux, tu vois, tu prends ça, et puis moi, on va le démolir, il n'y a pas de souci, et on va construire à la place, moi je vais même t'aider, on va construire un bâtiment, ça va être un dispensaire, et je pense que là, tu pourras avoir quand même beaucoup plus de place. Et à ce moment-là, Poulbeau regarde Delcroix et lui dit: oui, mais dis donc, j'entends des bruits, ça te sert, je ne sais rien, c'est mon poulailler. Ah bon, mais tu vas les mettre toutes tes poules. Il dit: écoute, ça n'a pas d'importance. Quelques poules de plus ou de moins à Montmartre, ça ne se remarquera pas. C'est l'esprit montmartrois, tout ça. Et donc, un deuxième dispensaire va naître grâce à Delcroix, grâce à Poulbeau. Et en permanence, comme ça, différentes manifestations vont avoir lieu autour de la République de Montmartre. Et actuellement, le président de la République de Montmartre, c'est notre ami Alain Coquart, oui, qui se donne énormément de mal, d'ailleurs. Et il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que le siège social de la République de Montmartre, c'est à la Bonne Franquette.
Ben oui, c'est ça.
Voilà, donc c'est quand même important. Et Alain Coquart se donne beaucoup de mal. Et avec beaucoup de sagesse, il cerne très bien les problèmes. Il vient en aide un peu à tout le monde, même à notre ami Alain Fontaine qui s'occupe, qui est président du syndicat des, comment dirais-je,
maître restaurateur
des restaurateurs de France, ennuyé, comme comme on peut l'imaginer aujourd'hui, eh bien, il invite Alain à la Bonne Franquette quand c'est possible. Là, en ce moment, malheureusement, ça ne l'est pas. Mais à chaque fois, on milite. Moi-même, avec Alain Fontaine, je milite pour essayer de faire passer les cafés, les terrasses de France dans le cadre du patrimoine immatériel, en fait.
Oui.
On est passé de l'UNESCO, on verra ce que ça va donner. On se bagarre quand même toujours pour aider les restaurants d'une manière ou d'une autre et qu'on leur donne une reconnaissance. Et Alain Fontaine, donc, est très heureux de voir Alain Coquart l'aider dans cette démarche. À chaque fois, ce sont des démarches, d'ailleurs, il ne faut pas oublier que tout ça, ça prend du temps. Et le temps, on l'offre parce qu'on n'a aucune arrière-pensée mercantile. On est là, on fait ça pour faire plaisir, pour faire le bien dans la joie, voilà, dans le cadre de la République.
Alors, Luc Frageboux, au moment des vendanges, justement organisées par la République de Montmartre, j'imagine que la Bonne Franquette est au centre des festivités.
Ah bon, chaque année c'est traditionnel. Hein. Il y a le repas le repas qui suit le banc des vendanges avec la République. Là, c'est une belle fête. Chaque année, c'est une belle fête. Il fait toujours beau. Il y a toujours du soleil. Il y a toujours une bonne ambiance. Tout le monde est présent. Et puis c'est vraiment bon enfant quoi. Et tout le monde se retrouve de tous les âges. Donc c'est toujours. Et chaque année, on essaye de changer un peu de thème. Il y a toujours des artistes. Alain Turban est toujours là, bien sûr, pour coordonner les différents artistes. Il fait office de directeur artistique à la Bonne Franquette. Donc non, c'est vraiment bien. Gérard, non, mais c'est pas la peine de parler de ça.
Non, mais si, c'est quand même une. Non, c'est quand même.
Alors, mettez-vous d'accord, messieurs. Parler devant le micro, voilà.
C'est très bien. Non, notamment chaque année, fin février, là, en général, il y a ce qu'on appelle le déjeuner de clôture de chasse, qui est une fête extraordinaire.
Alors, c'est à quelle époque ?
Fin février.
Ah, ben cette année, oui, c'est mal parti.
Et à chaque fois, le déjeuner, d'ailleurs, est mis en musique par les trompes de la salamandre. Donc c'est une fête, on voit les sonneurs qui sont devant la Bonne Franquette, et puis un repas suit avec, comment dirais-je, bon nombre de grands chefs
qui sont là.
Et c'est une fête exceptionnelle. Hein, voilà.
D'accord.
Là, c'est préparé, là, il y a quelques noms pour les amateurs, notamment en 2020, il y avait Jean Sabine, Georges Roux, qui est extrêmement connu, bien
Gabi
sûr,
Biscay.
Très talentueux. Voilà, et puis, comment dirais-je, toute l'équipe de Chaminka aussi, etc.
Oui,
voilà.
D'une manière générale, on
parle devant le micro.
Pardon.
Merci. Allez, une petite pause musicale, Gérard et Luc Frageboux. Bistrot, ça tombe bien.
Ça nous parle.
Venez boire un coup chez la mère Catherine pour oublier la guerre, le tsar et sa tsarine. La Timur ou Boris suivant Nicolas, il n'était pas certain de conquérir Paris. Alors il buvait vite, bistrot, buvait vite, bistrot. Les dieux faisant la boue, Montmartre en ce temps-là était devenu fou et même les filles de joie se tenaient rendez-vous derrière les barricades pour soulager d'un coup l'armée en débandade. Alors il tirait vite, bistrot, il tirait vite, bistrot, bistrot. Bistrot, 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 chantaient les cosaques sur la butte Montmartre. Bistrot, 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 dansaient les cosaques chez la mère 4-4. Ils nous ont fait la guerre, ils nous l'ont pas gagné. Ils sont tombés par terre, les bistrots sont restés. Bistrot. Comme des trous chez la mère Catherine, ils ont fini dedans la garette assassine. Igor et Nicolas ne sont jamais revenus. Le paradis c'est quoi quand on l'a pas connu? Vous la voulez la suite? Ils sont partis très vite. Les ailes des moulins ont tourné de plus belle. La mère Catherine enfin remis ses dentelles. La butte en ce temps-là retrouvait ses lilas. L'histoire a son destin, les bistrots sont là. Bistrot, ça veut dire vite. Hey 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 hey
butte Montmartre. Bistro, 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 danser les cosaques, chez la mère Catate. Bistro, 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 chanter les cosaques, sur la butte Montmartre. Bistro, 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 danser les cosaques, chez la mère Catate. Hey, bistro, 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 chanter les cosaques, sur la butte Montmartre. Hey, bistro, 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 danser les cosaques, chez la mère Catate. Hey, bistro,
bistro. Voilà, chers auditeurs de Radio Courtoisie, titre à nouveau d'Alain Turban, Bistro, Bistro, sur les Cosaques. Nous sommes dans le libre journal de La Relève, l'émission avec mon ami Gérard Le Tailleur, Simon Martre et La Bonne Franquette nous étaient comptés. Eh bien, nous avons fait un peu l'historique de Franc-Buveur à La Bonne Franquette. Nous avons reçu aussi Luc Frageboux, ministre de la musique de la République de Montmartre et par ailleurs propriétaire avec son père Patrick de La Bonne Franquette. Et puis bah, cette émission elle est agrémentée de titres d'Alain Turban. Nous avons eu une première pause musicale, Itinéraire d'un enfant de cœur, on va y revenir. Et puis là, Bistro Bistro, on en aura encore une tout à l'heure. Alain Turban, le chanteur, auteur, compositeur, le gamin de la butte, butte Montmartre, bien évidemment, le petit Poulbeau, je rappelle pour les auditeurs, le nom de Poulbeau désigne par antonomase les gamins pauvres de Montmartre et puis généralement de Paris, dont le peintre Francisque Poulbeau avait fait un de ses sujets de prédilection. Alain Turban, l'auteur de Santa Monica, la mine Michou qui chante Montmartre, dont un spectacle musical en 2013 à l'Olympia, La Légende de Montmartre. Ce qui forge aussi, ce qui vous forge Alain Turban, ce sont aussi des très grandes rencontres avec Johnny Hallyday, Nougaro, Gainsbourg, Polnareff et encore Dalida. Est-ce que vous voulez nous dire déjà quelques mots sur quelques anecdotes sur le premier morceau, par exemple, que nous avons entendu tout à l'heure, Itinéraire d'un enfant de cœur. Pourquoi Itinéraire d'un enfant de cœur, Alain Turban?
Eh bien, bonjour. D'abord, c'était simplement pour faire un petit peu un pèlerinage dans les rues de Montmartre. Bon, je suis né, moi, dans le bistrot de mes parents, mais vraiment à Montmartre, vraiment dans le bistrot, au-dessus du bistrot. Et maman a eu deux restaurants à Montmartre. Et puis, après une longue carrière dans la chanson, depuis plus de 35 ans, j'ai eu envie, en 2007, d'écrire un album sur Montmartre, sur mon village. Et la chanson était un enfant de cœur. J'étais enfant de cœur, évidemment, à Saint-Pierre-de-Montmartre. Et je préférais quand même les verres de vin à l'extérieur. Hein. Et en fait, parce que l'abbé qui nous s'occupait de nous s'appelait l'abbé Rio. R-I-O.
Monsieur,
c'était l'abbé Rio. Et tout le monde disait, oh, bah, c'est l'abbé de Rio.
Évidemment.
Voilà.
On retrouve bien là l'esprit gouailleur de Montmartre.
Oui, oui, mais c'est vrai.
Et alors, l'aspect Poulbeau aussi. Oui. Là, on retrouve cette Francis Poulbeau. Oui. C'était le gamin de Montmartre. Le gamin de... Vous avez été un de ces gamins
Oui, 15 ans de ma vie, quoi, quand même. Hein. Je l'ai baptisé, communié à Saint-Pierre de Montmartre. Et puis un jour enterré à Saint-Pierre-de-Montmartre, certainement. Et mais simplement, oui, j'ai passé toute mon enfance. Mon terrain de jeu, c'était le square du Sacré-Cœur, les palissades, les premiers amours. On fumait la liane, on coupait des morceaux de liane. Mais ça, c'est vrai, hein. Pour fumer, pour faire comme les grands, on coupait des morceaux de liane et puis on fumait de la liane, quoi, derrière les panneaux, derrière les... Voilà, on était cachés. On tirait des fléchettes pour les concierges, on tirait les sonnettes. Voilà, donc voilà. J'ai passé toute mon enfance là-bas et maman avait un restaurant sur cette petite place. Ça faisait le bal du 14 juillet. Comment s'appelait-il cet acteur? T'as de beaux yeux, tu sais, aidez-moi.
Gabin
a ouvert le bal avec maman, quoi, qui était très jolie. Je parle de maman hein, aussi. Aussi joli que Michel Morgan. Et en fait, voilà, ça, c'est des souvenirs d'enfance. J'ai vu tous les artistes passer, tourner des films dans ce village, voilà.
Il existe toujours, Alain Turban, ce Montmartre de votre enfance, d'après vous?
Ah oui, le Haut-Montmartre, oui, on l'a pas beaucoup. Mais bon, la grande époque des peintres, la grande époque des artistes, que j'écoutais votre émission tout à l'heure, ce que disait Gérard, effectivement, bon, Brel a démarré au Tire-Bouchon, juste en face la Bonne Franquette. Le Tire-Bouchon, c'est un mouchoir de poche, on rentre 15 personnes en bas. C'est incroyable, bon, Brassens, Patachou, moi j'ai bien connu, parce que j'étais élevé avec Pierre Billon, le fils de Patachou, on est à l'école ensemble, Montmartre vit sur son passé quand même. Alors on essaie, des gens comme les Frachebout, comme nous, la République de Montmartre, on essaie de faire perdurer cette légende de Montmartre, mais c'est pas facile.
Parce que avec le tourisme, même si vous en avez besoin de ce tourisme, néanmoins, il tend à tout uniformiser, à simplifier les choses.
Oui, moi ce que je regrette parfois, c'est que, par exemple, c'est pas pour critiquer, mais le Moulin Rouge, quand on voit les spectacles du Moulin Rouge, on parle peu de Montmartre. Il y a le fameux French Cancan, mais maintenant il y a des tableaux, on a l'impression qu'on était à Las Vegas, quoi. Mais le côté cabaret qui essaie de faire perdurer
la bonne franquette
ou le lapin agile, des endroits comme ça, ce sont les deux endroits maintenant qui restent. Il y a presque plus de cabaret.
Eh ben, on va y revenir justement, Alain Turban, sur votre contribution à cette activité de cabaret de la Bonne Franquette. Juste avant, je me retourne sur. Vous pourrez nous en dire aussi quelques mots si vous avez une anecdote sur Bistro. Les Cosaques, Gérard Le Tailleur, est-ce que vous voulez nous rappeler peut-être un peu
Napoléon et la Grande Armée s'est effondrée, donc nous sommes en 1814. Les Cosaques arrivent à Montmartre. Hein. Et c'est un véritable drame parce que ça se passe très mal. Il y a Place Clichy, un homme qui est extraordinaire, qui tient, un grand café. Il s'appelle La Tuile, le père La Tuile. Et il va sortir toutes les bouteilles de sa cave. Il va les mettre devant son restaurant. Il va demander aux Montmartrois de venir les boire, gracieusement bien sûr. Et en demandant aux gens de ne pas en laisser une seule goutte aux Cosaques. Hein. Et ça, c'était vraiment encore la manière dont les Montmartrois réagissaient à cette époque-là. Et 1814, ils arrivent et il va y avoir des drames. Il y a notamment la famille qui tient les derniers moulins, c'est la famille Debray. Et Debray, on lui demande de déposer les armes parce qu'avec son fils, il continuait de se battre. Ça s'est très mal passé, puisque un officier cosaque s'est approché, puis il l'a battu immédiatement, Debray. Donc, ils ont attrapé Debray, et puis je crois qu'ils l'ont coupé en quatre, hein, si on peut dire ça quand même, parce que c'est la vérité. Et ils ont accroché les morceaux de son corps aux ailes du moulin, ce qui fait que le fils a été tellement, marqué par cette atrocité, qu'il a décidé que le moulin ne buterait plus jamais la farine. Mais il en a fait une salle de danse. Voilà, ça c'est une petite anecdote un peu agréable à rattacher à ces drames que les Montmartrois ont vécu. Et puis comme a chanté bien sûr Alain à l'instant dans sa chanson, bistrot ça veut dire vite en russe.
Oui.
Et on raconte qu'effectivement ils se précipitaient parce que les officiers ne voulaient pas du tout que les hommes de troupes, les Cosaques, puissent boire. Ils connaissaient les méfaits de l'alcool sur les Cosaques. Donc ils allaient quand même à toute allure, ils rentraient donc bistrot en russe très vite, servez-nous. Et voilà. Et alors, d'ailleurs, quand on va chez la mère Catcat, donc chez la mère Catherine, il y a encore au-dessus de la porte d'entrée un panneau qui nous rappelle cette anecdote en disant c'est ici que le mot bistrot était prononcé pour la première fois.
Bien sûr.
Voilà. Alain Turban, vous voulez dire quelque chose sur cette chanson ?
C'est une chanson très festive. Tout à l'heure, vous parliez de Santa Monica, qui a été un des succès dans les années 80, disco. Mais effectivement, quand je chante très souvent cette chanson, que ce soit à la Bonne Franquette ou à l'Olympia ou en tournée sur Achetant des Têtes de Bois que je fais pendant 2 ans, cette chanson met une ambiance extraordinaire et c'est une façon aussi d'expliquer un petit peu l'histoire de Montmartre aussi, l'origine des bistrots. Les gens ne le savent pas.
Bien sûr.
Alors souvent, je dis, quand je vois une personne au premier rang, je dis, vous savez monsieur, ce que bistrot, ça veut dire vite. Ah ben, les gens sont étonnés parce qu'ils ne savent pas que ça... Alors, je dis, quand vous faites l'amour avec votre femme, eh bien, si vous dites bistrot, faut pas aller au bistrot, il faut aller, faut faire plus vite, quoi.
Ou moins vite. Alors, on va passer des bistrots à l'esprit cabaret, ça tombe bien.
Bah oui.
Et vos contributions, justement, à la bonne franquette de Patrick et Luc Frachebou. Vous êtes, vous occupez en partie de ces, du cabaret de la bonne franquette.
Oh non, non, oui, non, non, je fais ça comme ça parce que je fais partie de la République de Montmartre, puis ça me passionne, puis je connais plein d'artistes. J'ai fait venir plein de copains, notamment Gilles Dreux, qui est un artiste de talent. Gilles Dreux, qui a une carrière colossale et qui est venu faire une soirée à la bonne franquette. Mais aussi, on se sert aussi des artistes de Montmartre qui ne sont pas très connus, et puis voilà, on s'est. Voilà, je fais un peu le régisseur comme
ça. Vous êtes le régisseur. Voilà,
voilà. Voilà. Mais j'ai aucune prétention de dire que je suis. C'est moi qui organise.
Oui, non, oui, non, mais c'était dans ce sens-là de régisseur.
On me demande de le faire et c'est un grand plaisir quand la soirée est réussie, que tout le monde finit sur les tables avec les serviettes au-dessus de la tête, et ben, c'est gagné, quoi.
Alors, comment vous vivez cette période là, actuelle qui a débuté au mois de mars 2020 Parce que là, la relâche est longue. Hein,
Simplement pour vous dire, moi, je devais faire le théâtre de l'atelier, hein, parce que j'ai un spectacle qui a pour titre Piano la vie. Et on avait bloqué le théâtre de l'atelier. Deux fois, ça ne s'est pas fait. Et on devait faire La Légende de Montmartre à la Nouvelle-Ève. Et puis, évidemment, des galas en province depuis un an qui sont reportés. Mais bon, hormis le côté néfaste de la maladie, j'écris plein de chansons pour des gens, pour d'autres artistes. Je sors un nouvel album bientôt. Et puis voilà, je m'amuse, j'écris. Quand on écrit, on ne s'ennuie pas. Quoi.
Ah, évidemment, c'est sûr, on ne s'ennuie pas. Donnez-moi un petit peu, parce que vous êtes souvent l'historien de Montmartre, mais vous avez une vie aussi, Gérard Le Tailleur. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'ambiance de la bonne franquette aujourd'hui, avant mars 2020.
Oui, c'est magique, on rentre dans un endroit, on oublie ses soucis, et puis on ne voit que le bon côté des choses. Ça, c'est ce qui a toujours été, comment dirais-je, très porteur à la bonne franquette. Puis c'est très parisien aussi, non seulement Montmartrois, mais très parisien. C'est le bistrot, le café, le restaurant, c'est l'endroit où on va. On va rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas. Pendant quelques minutes, on va sympathiser. Au bout des minutes, un quart d'heure, on a l'impression qu'on s'est toujours connu. Et puis on sort les uns et les autres du lieu. Et puis on ne se connaît plus, mais ça n'a pas d'importance. En revanche, bon, la bonne franquette, il est vrai que je serais tenté de dire que c'est une grande famille. Patrick, Luc et Anne, la maman de Luc, c'est une famille extrêmement chaleureuse. Et elle nous accueille toujours de manière positive, quel que soit le moment, même lorsque parfois... Et c'est vrai que des fois, le restaurant n'est pas toujours très très plein. Souvent, il y a 200 couverts d'ailleurs, quand ça marche bien, mais c'est pas toujours le cas. Mais c'est toujours d'humeur égale qu'on est reçu. Et comme le disait si justement Luc, le personnel qui est là, c'est-à-dire les serveurs ou autres, et même le chef qui arrive, ils ont toujours un grand sourire quand ils nous voient. Et quand la direction est positive et bonne et sympathique, ça a automatiquement, comment dirais-je, une incidence sur les personnes qui y travaillent. C'est pour ça que tout le monde est content d'être là. Et là, bon, je suis passé, on a fait une petite émission la semaine dernière qui était enregistrée à la bonne franquette. J'ai revu avec plaisir quelques personnes que je n'avais pas rencontrées depuis pratiquement un an. Eh bien, elles sont toujours pareilles, toujours le même sourire. C'est merveilleux. Et rares sont les endroits comme ça, parce que quand ça va mal, le patron change très souvent, les emplois ne sont plus les mêmes, les serveurs s'en vont, il y a des tensions. Et ça, la bonne franquette, c'est une grande famille, on y est bien. Et les artistes qui viennent sont détendus. Et les réunions que l'on fait avec la République de Montmartre chaque mois, eh bien, elles sont empreintes, en fait, de cette gentillesse qu'on ressent, quoi. Et tout se passe toujours.
C'est l'esprit des lieux. Olivier, Adrienne, voilà, aujourd'hui, Patrick, voilà, et Luc.
Édouard Herriot qui arrivait, qui était détendu, quoi, qui était avec pas mal d'amis, d'ailleurs, puisque c'était aussi un épicurien, notre ami Édouard Herriot.
Écoutez, ça va être le moment d'écouter le troisième morceau d'Alain Turban. Et ce troisième morceau, c'est Poulbeau, chers auditeurs de Radio Courtoisie.
Cerise rouge amère, tu as laissé ton nom à ceux qui n'étaient que des mioches, pas mieux. Tu dessinais l'impertinence de tous les enfants du silence. Tu leur donnais l'intelligence de leur faire dire ce que tu penses. T'étais le père de tous ces gosses. N'avait pas le sou en poche et qui vivait dans le maquis, dans ce Montmartre où j'ai grandi. Poulbeau, Poulbeau, je te dessine avec mes mots. Poulbeau, Poulbeau, ton sacré cœur est sous ma peau. J'ai beau mettre un visage sur mes rimes, la seule image que je te vis, c'est celle d'un homme sous son chapeau qui s'appelait Francisque Poulbeau. T'avais le fusain volontaire de ceux qui n'avaient peur de rien. Se battre pour un dispensaire et recevoir tous les gamins. Et si Montmartre a ses jardins, tu y es sans doute pour quelque chose. S'il y a des vignes, s'il y a du vin, c'est ton esprit qui les arrose. Poulbeau, Poulbeau, je te dessine avec mes mots. Poulbeau, Poulbeau, ton sacré cœur est sous ma peau. J'ai beau mettre un visage sur mes rimes, la seule image que je devine, c'est celle d'un homme sous son chapeau qui s'appelait Francisque Poulbeau. Poulbeau, Poulbeau, dessinateur, illustrateur. Poulbeau, Poulbeau, t'étais le Coluche avant l'heure. J'ai beau mettre un visage sur mes rimes, la seule image que je devine, c'est celle d'un homme sous son chapeau qui s'appelait Francisque Poulbeau. Poulbeau.
Eh bien voilà, Poulbeau d'Alain Turban, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour ce libre journal de la relève. Si Montmartre et la Bonne Franquette nous étaient comptés, avec Gérard Le Tailleur, avec Luc Frageboou et donc avec Alain Turban. Il y a un air de nostalgie, Alain Turban, dans ce troisième morceau que nous écoutons aujourd'hui, Poulbeau.
C'est une de mes chansons préférées, j'en ai écrit plus de 300, 400. J'ai l'impression d'avoir charge d'âme. Mais vraiment, c'est sérieux. Là, je suis très, très sérieux. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé sur Terre en 1947. Francisque Poulbeau est parti en 46. On a dû se croiser. Il a dû m'envoyer un message. Et quand tu auras 65 balais, Turban va t'écrire un album et une chanson sur moi. Mais c'est pas du tout de la blague. J'ai vraiment l'impression d'avoir charge d'âme.
Ça s'entend bien, comme ça. Gérard Le Tailleur, on pourrait reparler des Poulbeaux, de Francisque Poulbeau, qui est, on en discutait ensemble pendant cette petite pause musicale, c'est vrai, est un peu oublié aujourd'hui.
Oui, c'est exact. On connaît ces dessins. Bien souvent, les gens regardent des dessins, ça leur parle, mais ils sont incapables même de mettre le nom de Poulbeau en dessous. Or, Poulbeau était un grand illustrateur aussi d'ouvrages de bibliophilie. Il a fait beaucoup d'affiches. Il a été assigné en résidence durant la guerre, la dernière guerre mondiale, parce que les Allemands se rappelaient de ces caricatures anti-Bosch qui étaient, comment dirais-je, envoyées par avion, donc les avions passaient, sur les lignes allemandes. Donc, pour eux, Poulbeau, c'était un très, très mauvais souvenir. Donc, ils l'ont assigné à résidence, ce qui fait qu'il n'a pratiquement pas pu créer pendant ces années d'occupation. Et ensuite, donc, il est mort en 1946, comme Alain vient de le rappeler. Mais il était toujours, ouvert à toute forme de création. C'était un personnage étonnant, une grande gentillesse qui a passé sa vie donc à s'occuper des gosses. Et puis il y a une petite image que j'ai, c'est une pensée de Monterland que j'ai en tête. Monterland, on est en 44, les troupes allemandes quittent Paris à une vitesse vertigineuse. Et une voiture allemande passe devant le Moulin Rouge. Un soldat saisit sa mitraillette et tire sur les ailes du Moulin Rouge qu'il rate. Sous les yeux, dit Monterland, des petits Poulbeaux qui étaient là dans un uniforme d'un autre âge. Et je trouve que l'image est très belle.
Super.
C'est donc le Poulbeau, c'est une antonomase qui représente, donc c'est un nom, un nom de famille, un nom propre, qui va devenir un nom commun. Le Poulbeau, le Gavroche, c'est ça. Mais pas seulement le Gavroche, c'est ça.
Non, pas seulement. Puis il est né à Saint-Denis. Il est né à Saint-Denis. D'ailleurs, la rue Poulbeau, elle est pas vraiment terrible. J'y passe très très souvent. Ça ressemble à rien du tout. Ça aurait pu prendre au centre de Saint-Denis, garder la rue Poulbeau, Francisque Poulbeau. Là, on a l'impression que c'est une déviation.
Comme on a le même âge avec Alain, oui. Alain a très certainement en tête aussi, surtout plus que moi, puisque c'est son métier, cette merveilleuse chanson écrite par Mick Michel, Un gamin de Paris.
Ah bah oui,
parce que le gamin de Paris, c'est le Poulbeau aussi.
Oui, oui.
Donc on a bien voilà, en tête la chanson.
Quelqu'un aussi qui a aimé énormément Montmartre, Mick Michel.
Et alors, Luc Frachebou, vous reprenez finalement toute cette légende, mais on a presque oublié de parler un peu des origines savoyardes.
Ah oui, bah nous on vient d'un petit village qu'on a évoqué, Samoin.
Voilà, Samoin.
Mon grand-père est arrivé là après-guerre, mais on a toujours nos racines là-bas, on a toujours la maison familiale. Et ce qui est assez marrant ou intéressant, c'est que on peut dire que mon grand-père a quitté des grandes montagnes pour retrouver une petite colline à Paris. Et je vais vous dire, sur sa tombe, au cimetière de Samoin, il y a deux choses. Il y a le Sacré-Cœur et la montagne, le Criou, et la montagne au pied de laquelle il est enterré. Donc il a toujours eu ce lien.
Voilà. Alors au Sacré-Cœur, il y a une cloche, je crois, qui est savoyarde.
Bah c'est la plus grosse cloche, et je crois même, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est la plus grosse cloche qui a jamais été coulée en France. Elle vient de la Savoie. Ça a été un périple pour pouvoir la ramener. Donc elle a été montée en partie sur la Seine, sur le Rhône. Pour la monter jusqu'à Paris, parce qu'elle fait je ne sais plus combien de dizaines de tonnes, et elle s'appelle la Savoyarde. Voilà.
Elle est montée d'ailleurs,
oui,
comment dirais-je,
le tailleur.
Tractée par des chevaux. Il y avait énormément de chevaux, et en plus il pleuvait, la chaussée était, comment dirais-je, glissante, et c'est par miracle que, comment dirais-je, ce convoi a pu prendre le grand virage de la rue Caulaincourt. Sinon, elle n'aurait pas pu monter. Voilà.
Il nous reste, chers auditeurs de Radio Courtoisie, un peu moins de 4 minutes pour conclure. Je vais faire un dernier, non pas un dernier tour de piste, mais un dernier tour de table pour aujourd'hui, pour ce livre journal de la relève. Et je vais commencer par vous, Gérard Le Tailleur. Que conclure sur ce Montmartre et la Bonne Franquette, si Montmartre et la Bonne Franquette nous étaient comptés?
Eh bien, quand Patrick et Anne, donc les parents de Luc, m'ont demandé de me mettre un petit peu à écrire un ouvrage sur la Bonne Franquette, j'ai eu immédiatement une première image en tête. Je me suis dit, la Bonne Franquette, c'est un bijou, c'est merveilleux. Ce bijou est dans un écrin, Montmartre. C'est pour ça que l'ouvrage que j'ai réalisé tourne également avec l'histoire de Montmartre, parce que les deux sont complètement indissociables.
Alain Turban. Oui. La Bonne Franquette, alors, c'est une somme de souvenirs depuis fort longtemps.
Bah depuis fort longtemps, et puis j'ai bien connu le grand-père, moi. Voilà.
Ah oui, Christian.
J'ai bien connu Christian, et la dernière fois, nous étions pas, c'est pour Thierry Bouchon, ce qu'il y a au coin, chez Mousse.
À la Pétaudière.
À la Pétaudière.
La Pétaudière chez
On
Mousse.
On s'est fait une soirée champagne, voilà, la dernière fois que je l'ai vu, voilà. Et puis, bah oui, j'ai beaucoup d'attaches pour ce pays. Je suis très très heureux de pouvoir y venir le plus souvent possible. Et c'est vrai quelque part qu'il y a eu la bohème, mais la bohème sur la place du Tertre, ça me dit rien, ça me parle pas. Il y a eu le petit cabaret de chez ma cousine du temps de Roger Dangueugé qui était fabuleux. Et puis il y a la crémaillère. Mais maintenant, je pense que ce n'est pas du tout pour faire du serrage de pompe. Mmh. Et je pense que ce que fait la Bonne Franquette, personne ne le fait sur le but de Montmartre. Et ça, je le pense vraiment. Au niveau de l'animation, au niveau du goût de Montmartre, je pense que la place du Tertre est un petit peu abandonnée. Quoi, voilà.
Ouais. Merci Alain Turban. C'est un bel hommage, Luc.
Oui, magnifique, ils sont gentils.
Mais non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Si les autres se bougeaient les fesses, peut-être que on dirait pas ça, mais c'est vrai que vous travaillez beaucoup. Et puis c'est une histoire de famille, quoi. Là, c'est merveilleux, quoi.
Eh bien Gérard, le mot de la fin avec Luc, tous les deux.
Et des millions de personnes dans le monde ont vu les jardins de la Bonne Franquette en regardant simplement le merveilleux tableau de Van Gogh qui a été peint dans les jardins de la Bonne Franquette, c'est la guinguette, voilà, qui est au musée d'Orsay actuellement.
Voilà. Eh bien c'est les mots de conclusion. Merci à vous trois, merci Gérard Le Tailleur, merci Luc Frageboux, merci Alain Turban, merci de votre écoute, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Vous venez d'entendre Simon Martre et La Bonne Franquette nous étaient comptés. C'était un libre journal de La Relève. À très bientôt, chers auditeurs.
Vous venez d'entendre le libre journal de La Relève, dirigé par Nicolas Stocker, émission préenregistrée le 16 février 2021, diffusée sur Radio Courtoisie mercredi 14 avril de 19h30 à 21h et réalisée par Benoît et Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.